Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de la capitale américaine, lundi 17 juin 2019, Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir, triple attentat suicide au Nigeria, plus de 30 personnes ont été tuées dans le nord-est du pays. Retour des islamistes dans la région de Tombouctou au Mali, des djihadistes armés imposent la charia dans le cercle de Dire. Le chef rebelle tchadien Mahamat Nouri a été interpellé en France et l'Iran a annoncé que ses réserves d'uranium enrichi vont passer au-dessus de la limite imposée par l'accord sur son programme nucléaire. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Nigeria, plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées dans le nord-est dans un triple attentat suicide. L'attaque attribuée à Boko Haram a visé des supporters de foot. Abdourahmane Dia.
Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières attribuées à ce groupe djihadiste depuis des mois dans cette région. Trois kamikazes ont fait exploser leurs charges à proximité d'un local où s'étaient massés des supporters de football hier soir à Kondunga, à une quarantaine de kilomètres de Maiduguri, la capitale de l'État du Borno. Selon Ousmane Kachala, chef des services de secours d'urgence, il y aurait eu moins de victimes si le secours avait eu un accès plus rapide à Kondunga. Le manque d'infrastructures médicales appropriées pour gérer ce genre d'urgence et le temps passé à obtenir l'autorisation de l'armée de se rendre sur le lieu ont contribué à ce lourd bilan, a expliqué M. Kachala. Les gens meurent à cause du manque d'hôpital, a indiqué un témoin, Garba Abdullahi. L'attaque n'a pas pour l'instant été revendiquée, mais selon les médias, il porte la marque des djihadistes de Boko Haram restés fidèles à Aboubakar Shekau.
Au Mali, retour des islamistes dans la région de Tombouctou, dans le cercle de Dire. Ce week-end, plusieurs communes ont reçu la visite d'un groupe de djihadistes armés qui ont contraint les populations à des regroupements dans les mosquées pour suivre des prêches. Ils annoncent aussi l'imposition de la charia, la loi islamique. De Tombouctou, la correspondance d'Abdoulaye Traoré.
Dans le village de Al-Galasouba, commune de Haïbongo, dans le cercle de Dire, la charia est entrée en vigueur depuis hier. Selon des sources locales, toutes les manifestations et autres célébrations sont interdites, notamment lors des mariages ou autres circonstances. Le port du voile est obligatoire pour toutes les femmes. Obligation est également faite, notamment aux détenteurs de bœufs, de verser la zakat qui consiste à donner de l'argent aux plus pauvres. Pour certains, cette visite des djihadistes dans leur zone n'est autre que de voler leur bétail. Les populations de la région sont inquiètes. Elles sont furieuses que Bamako leur a tourné le dos en abandonnant toutes ces communes du cercle de Dire situées dans le Gourma. Les habitants affirment que ces hommes armés sont venus de Dialoubé et appartiendraient au groupe du prédicateur Amadou Koufa. Abdoulaye Traoré, Tombouctou pour VOA Afrique.
Deux gendarmes tués dans le centre du Mali. Une mine artisanale a explosé à leur passage à pied dimanche à l'entrée d'un poste militaire à Sokolo. Plus de 10 civils peuls avaient été tués à la mi-mai dans cette région. Par ailleurs, un détachement de l'armée est tombé dans une embuscade entre Niafunke et Tonka, environ 100 km au sud de la ville de Tombouctou. Et toujours au Mali, trois soldats français ont été blessés vendredi dans l'atterrissage d'urgence de leur hélicoptère lors d'une opération conjointe avec l'armée malienne dans le nord-est du pays. Une vingtaine de djihadistes ont été mis hors de combat lors de cette opération dans le sud du Liptako malien, à proximité du Niger, d'après l'état-major des armées françaises. Au Bénin, le calme est revenu dans le centre du pays après une semaine d'affrontements violents entre les forces de l'ordre et des partisans de l'ancien président Boni Yayi. L'axe routier Cotonou, Parakou est rouvert, mais les commerces restent fermés à Tchaourou et des soldats patrouillent la ville. Des négociations non officielles entre les élus locaux, des émissaires du gouvernement, les forces de sécurité et les manifestants armés se déroulent depuis dimanche. Burkina Faso, le procureur du tribunal militaire de Ouagadougou a requis la prison à vie pour les deux principaux accusés du procès du putsch manqué de 2015, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Le procureur a retenu contre eux les charges de trahison et de meurtre, ainsi que celles d'attentat à la sûreté de l'État pour le premier et de complicité pour le second. République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle va réexaminer une cinquantaine de décisions censées contenir des erreurs matérielles, ayant notamment entraîné l'invalidation de l'élection de 23 députés d'opposition. La Cour constitutionnelle avait invalidé la semaine dernière l'élection de 23 députés d'opposition, dans la plupart des cas au bénéfice de la majorité parlementaire de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Plusieurs ministres et gouverneurs de province ont vu leur mandat validé alors que la commission électorale ne les avait pas proclamés élus. Le chef rebelle tchadien, le général Mahamat Nouri, et deux autres suspects ont été interpellés aujourd'hui en France. Ils sont soupçonnés de crimes contre l'humanité commis au Tchad et au Soudan entre 2005 et 2010. Claire Morin-Gibourg.
Le général Mahamat Nouri a été arrêté ce matin à son domicile dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris en 2017 pour crimes contre l'humanité, complicité et association de malfaiteurs. Avec deux autres suspects, il a été placé en garde à vue par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Le général Nouri est le président fondateur de l'UFDD, l'Union des forces pour la démocratie et le développement, et l'un des plus influents chefs rebelles tchadiens. En février 2008, son mouvement avait lancé une offensive sur N'Djamena, mais les rebelles ont été repoussés par l'armée tchadienne avec le soutien de la France. Des divergences au sein des rebelles ont été l'une des causes de l'échec de cette offensive, la plus importante contre le régime du président Idriss Déby Itno depuis 1990.
Le Kenya tente de rassurer ses citoyens et ses touristes sur sa capacité de réponse à Ebola. Le cas suspect a été détecté dans l'ouest du pays, proche de l'Ouganda. C'est finalement révélé être une fausse alerte. En Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, a encore rejeté la mise en place d'institutions de transition réclamées par le mouvement de contestation. Le point avec Idriss Fall.
Devenu de facto l'homme fort du pays, le général Gaïd Salah a réitéré son attachement résolu aux solutions légales et constitutionnelles. Selon lui, la priorité consiste à accélérer l'élection d'un président de la République dans les délais possibles. Samedi, plusieurs organisations de la société civile ont proposé une transition de 6 mois à 1 an, dirigée par une instance présidentielle ou une personnalité consensuelle, et l'installation d'une commission indépendante chargée d'organiser la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a récemment constaté l'impossibilité d'organiser la présidentielle convoquée le 4 juillet par le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah et l'a chargé d'organiser un nouveau scrutin. Mais le mouvement de contestation qui a poussé au départ le président Abdelaziz Bouteflika continue de refuser que des fidèles de l'ancien régime organisent le scrutin. Les manifestants réclament toujours le départ de M. Abdelkader Ben Salah et du général Gaïd Salah.
Algérie toujours, l'ancien patron des patrons, Ali Haddad, riche homme d'affaires lié au président déchu Abdelaziz Bouteflika, a été condamné à 6 mois de prison ferme pour la détention de 2 passeports, ce qui est illégal en Algérie, selon la télévision nationale. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne demandent une enquête indépendante et transparente sur des violentes attaques perpétrées au Soudan le 3 juin, qui ont fait de nombreux morts. L'Union européenne estime que la responsabilité incombe au Conseil militaire de transition en tant qu'autorité chargée de la protection de la population.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran a annoncé que ses réserves d'uranium enrichi vont passer à partir du 27 juin au-dessus de la limite imposée par l'accord sur son programme nucléaire conclu en 2015 à Vienne. Une menace qui fait monter la tension après le retrait des États-Unis de ce pacte. Les précisions de John Lindon.
Le compte à rebours pour passer au-dessus des 300 kg pour les réserves d'uranium enrichi a commencé et dans 10 jours, c'est-à-dire le 27 juin, « Nous dépasserons cette limite », a déclaré Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Cette annonce survient au moment de vives tensions entre l'Iran et les États-Unis, qui accusent Téhéran d'être responsable des récentes attaques contre des pétroliers dans le Golfe, ce que Téhéran dément. Fruit d'intenses efforts diplomatiques entre l'Iran et le groupe des six, à savoir l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, ont conclu un accord à Vienne pour limiter le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions économiques. Washington s'est retiré unilatéralement du pacte en mai 2018 et a rétabli de lourdes sanctions contre Téhéran. Jusqu'ici, l'Agence internationale à l'énergie atomique a certifié que l'Iran agit en conformité avec les engagements pris à Vienne.
L'Iran a riposté aux accusations saoudiennes tenant Téhéran pour responsable des attaques qui ont visé deux pétroliers jeudi en mer d'Oman, affirmant que les tensions régionales actuelles étaient le résultat des politiques erronées de Riyad. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
La Sénégalaise des eaux, SDE, va saisir la Cour suprême du Sénégal pour contester l'attribution au groupe français Suez du marché de la distribution d'eau après le rejet de ses recours devant l'autorité de régulation des marchés publics. Elle va aussi étudier la possibilité d'engager d'autres recours internationaux. La SDE, opérateur depuis 1996, conteste l'attribution du marché à Suez sous prétexte qu'elle avait proposé le plus bas, mais qu'aussi le groupe Suez est en conflit d'intérêts pour avoir remporté avec un partenaire local la construction d'une importante usine d'eau potable Kames 3. La Banque centrale du Nigeria a annoncé la fermeture des comptes bancaires des entreprises qui utilisent des devises étrangères illicites pour importer clandestinement des produits soumis à des restrictions. En 2015, la banque avait déjà restreint l'accès au dollar pour les entreprises qui importaient 43 articles comme du riz, du savon, les jets privés en passant par les encens indiens afin de préserver les réserves de change et diversifier son économie. Terminons avec la République démocratique du Congo où la justice a confirmé la suspension par le gouvernement de la licence 2G du groupe de télécommunications Vodacom. Cette société a 3 mois pour renégocier sa licence avec le ministère des télécommunications avant de passer aux enchères. Le renouvellement du permis coûte 65 millions de dollars. La suspension n'affecte pas les licences 3G et 4G de Vodacom au Congo.
Sur les stades, les sports, avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Sadio Mané ne jouera pas le premier match du Sénégal à la prochaine CAN.
Oui, le lion de la Teranga est suspendu pour avoir écopé de 2 cartons jaunes lors des éliminatoires. Cette absence ne doit en aucun cas nous déranger. Certes, la présence de Sadio est bénéfique, mais sans lui, nous restons forts, a affirmé le sélectionneur Aliou Cissé. Pour son entrée en lice, le Sénégal joue contre la Tanzanie le 23 juin dans la poule C.
À 4 jours de cette CAN, les pays qualifiés poursuivent leur préparation.
De nombreux matchs amicaux. Hier, le pays hôte, l'Égypte, a battu la Guinée 3-1. Mohamed Salah est rentré en cours de jeu. De son côté, le Sénégal a dominé le Nigeria 1-0 avec un but d'Idrissa Gueye, nul 1-1 entre la Tanzanie et le Zimbabwe. Et puis, le Maroc a été surpris par la Zambie 3-2. Le Mali a été défait sur ce même score par l'Algérie. C'est Indy Delors, repêché la semaine dernière, qui a donné la victoire au Fennec en fin de match.
Justement, le Mali est soulagé de la non-disqualification de sa sélection.
Le scénario catastrophe d'une éventuelle exclusion de la CAN est écarté. Les nouveaux statuts de la fédération ont été finalement votés. On le rappelle, c'était la condition sine qua non pour que les Aigles puissent prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Sous tutelle depuis 1 an et demi, la fédération malienne de football était menacée de suspension par la FIFA si elle n'adoptait pas ces nouveaux statuts à l'Assemblée générale samedi dernier. Le Mali partage le groupe E avec la Tunisie, dont le sélectionneur espère aller le plus loin possible dans cette CAN. Écoutons Alain Giresse.
On peut se dire, on a l'ambition d'aller jusqu'au plus haut. Et puis après, les éléments du football nous le permettront. La façon qu'on aborde les matchs, en tout cas, doit convenir à ce que réclame cette ambition de résultat.
Athlétisme, Akani Simbine a remporté le 100 mètres des Boston Games.
Oui, le Sud-Africain s'est imposé avec un chrono de 9 secondes 92 centièmes. Akani Simbine, 25 ans, a amélioré de 3 centièmes son record personnel de l'année lors de cette réunion. Il a devancé sur une piste mouillée par la pluie les Américains Kendall Williams et Isaïe Nyang sur 100 mètres toujours chez les dames. L'Ivoirienne Muriel Aouré a arraché la victoire en 11 secondes 9 centièmes devant les Américaines Ellie Hobbs et Tori Bowie.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. L'alliance entre le président congolais Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila tiendra-t-elle encore longtemps? Cette question alimente l'actualité en RDC après les manifestations qui ont opposé pendant 3 jours à Kinshasa les militants de l'UDPS à ceux du PPRD. 6 mois après l'élection de M. Tshisekedi, de nombreux désaccords avec le camp de M. Kabila, majoritaire au Parlement, freinent la bonne marche d'un pays toujours sans gouvernement. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'objectif principal de notre réunion était de lancer l'appel au calme. La coalition entre FCC et CACH reste toujours d'actualité et nous sommes ensemble. Ce qui est arrivé les 3 derniers jours, ce n'est qu'un incident du parcours.
Cette déclaration du secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi Augustin Kabuya, a apaisé les militants de son parti et du PPRD qui se sont donnés en spectacle durant 3 jours à Kinshasa, à Lubumbashi et dans quelques villes du pays après des propos jugé outrageant, tenu par le député du Front commun pour le Congo, Charles Nawej, à l'endroit du président Félix Tshisekedi lors d'une plénière à l'Assemblée nationale. Ce dernier s'était posé la question de savoir si le président de la République n'avait pas inconsciemment signé des ordonnances nommant les comités de direction de la GECAMINE et de la Société nationale des chemins de fer du Congo. 2 jours après, les militants de l'UDPS Tshisekedi avaient pris d'assaut le palais du peuple, siège du Parlement, s'attaquant même physiquement à quelques députés nationaux. En réaction, ceux du PPRD de Joseph Kabila sont également descendus dans la rue. Résultat, quelques sièges des partis politiques saccagés à Kinshasa comme à Lubumbashi. Des questions se sont alors multipliées sur l'avenir de l'alliance entre le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila et Cap pour le changement de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi après ce énième rebondissement dans un mariage politique qui peine à trouver de la stabilité. Dieudonné Moïse, cadre du FCC, pense que malgré ces moments de turbulence, l'accord avec CACH survivra jusqu'en 2023.
Cet accord n'a pas été conclu pour rien. C'est sur base des réalités politiques que nous avons connues après les élections organisées. Ces élections ont obligé à ce que les deux familles politiques puissent cheminer ensemble et puissent conjuguer leurs efforts ensemble pour diriger ce pays.
Force est de constater que malgré cet optimisme affiché, la République démocratique du Congo n'a toujours pas de gouvernement près d'un mois après que Félix Tshisekedi ait nommé le Premier ministre Sylvestre Ilunga. D'où les scepticismes, voire le pessimisme de certains Kinois interrogés au sujet de cette alliance entre Félix Tshisekedi, vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, et Joseph Kabila, dont le regroupement politique est majoritaire au Parlement.
La coalition CACH-FCC doit avoir une rupture parce qu'il n'y a pas de clarité là-dessous. Il serait mieux qu'ils se séparent. Depuis qu'on a nommé le Premier ministre, ça prend du temps. On nous ment du jour au jour. La sortie du gouvernement, c'est demain ou après-demain. Et depuis l'investiture du chef de l'État, maintenant, c'est déjà 6 mois sans gouvernement.
Je n'approuve pas l'alliance CACH-FCC. Donc, le président de la République doit revoir les accords signés entre les FCC et les CACH parce que les FCC est en train de chercher comment bloquer les processus déjà déclenchés par le président de la République.
Moi, mon impression entre les FCC et CACH, c'est une bonne impression puisque ça va changer le pays. C'est pourquoi nous louons cette initiative.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Bénin, après les manifestations violentes à Cotonou et dans le nord du pays, des voix s'élèvent pour appeler au calme et à la culture de la paix. Les confessions religieuses de la nation appellent les acteurs politiques au dialogue, mais pour l'opposition, pas de dialogue, je cite, sans que justice ne soit rendue pour les victimes fauchées par les balles des forces armées. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Floradondé.
Comment tendre la main lorsque derrière on lance une chasse aux sorciers avec des arrestations tous azimuts pour Candide Azanaï du parti Restaurer l'espoir, pas de paix sans justice et vérité.
En l'état au Bénin, il y a usurpation et confiscation du pouvoir législatif à des fins de coup d'état sanglant en cours. Il faut savoir s'arrêter. S'il n'a pas donné les ordres, aucun militaire ne peut tuer. Et s'il n'a pas donné les ordres, il n'a qu'à interpeller le chef d'état-major des armées pour dire, moi, Patrice Talon, je n'ai pas donné des ordres.
Pour résoudre la crise post-électorale qui prend des proportions inquiétantes, les voix s'élèvent pour appeler à un dialogue franc et inclusif. L'association des pasteurs évangéliques et apôtres appelle les anciens chefs d'état à la sagesse et à montrer la voie pour une sortie de crise. Andrea Tempon est le porte-parole des pasteurs.
Nous supplions nos anciens présidents à agir toujours par la sagesse, qu'ils cherchent à conseiller, à exhorter, à apaiser autorités et populations.
Les députés élus sont conscients de l'importance du dialogue pour Ordène Aladati. Cela permettra un nouveau départ pour le bien-être du pays.
L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'ouverture vers l'inclusion, vers les discussions. Et que les gens s'acceptent aussi que lorsqu'on ne s'est pas mis d'accord, que la majorité puisse prévaloir.
La situation de l'ancien président Yahi Boni est une préoccupation. Selon ses avocats, il serait malade et en résidence surveillée. Samedi dernier, au cours d'une conférence de presse, Maître Kato Atita a dénoncé une attitude du pouvoir qui compromet durement la paix tant recherchée.
Où veulent en venir les gouvernants? Affaiblir le mouvement de la résistance, qu'incarnent les leaders politiques en isolant le président Yahi Boni. Opposer à l'intérieur du mouvement de résistance les différentes composantes régionales et ethniques et sociales qui la composent. Soit c'est le premier objectif. Mais je dois vous dire, mes chers amis, que Yahi Boni dit qu'il reste solidaire et très solidaire du mouvement de la résistance. Il ne trahira pas ses convictions au sein du groupe des leaders de la résistance.
Certains partis de l'opposition ont accepté la main tendue de Patrice Talon pendant que les autres, dont les fausses corées pour un Bénin émergent de Yahi Boni, lui et celle de Sébastien Adjavon et restaurer l'espoir de Candide Azanaï disent simplement non et exigent des préalables. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, un commissaire de police et deux de ses agents ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme et à une amende d'1 million de francs CFA le week-end dernier par le parquet de grande instance de N'Djamena pour avoir torturé à mort un prévenu dans un commissariat de sécurité publique. A signalé aussi une autre amende de 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts opposable à l'État tchadien qui est civilement responsable. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique au Tchad, revient sur cette condamnation.
Le commissaire premier adjoint du CSP7, Abdelkrim Haroun Nassour, a été inculpé au même titre que ses deux agents par la justice tchadienne pour complicité des coups et blessures volontaires mortelles. Le tribunal a estimé que c'est sur son instruction que Yahya Daoud, un jeune en détention préventive, a subi des sévices corporels et actes de torture ayant entraîné sa mort au commissariat dont il était l'un des responsables. Pour l'avocat de la défense Bailassam Lombatna Franklin, le droit n'a pas été dit dans cette affaire.
Ni le parquet, moins encore la partie civile, n'ont rapporté la preuve. Le parquet n'a même pas requis la complicité, mais le tribunal est passé outre pour retenir mon client, le commissaire Abdelkrim, dans les liens de l'infraction. Donc je suis assez désolé pour le verdict qui est tombé. Il n'a nullement demandé à quiconque de torturer ou de taper sur un concitoyen tchadien.
En revanche, le président de l'Association nationale d'aide aux détenus, Mohamed Kader Mohamed, s'est dit satisfait de ce verdict. Toutefois, il émet de réserve quant à l'exécution de cette décision.
C'est un acte salvateur parce que ça peut servir d'école pour les autres cas pour qu'à l'avenir de tels actes ne se reproduisent. Connaissant les méandres de la justice tchadienne, je prends ça avec beaucoup de réserve, étant donné qu'on a condamné les gens et 2 mois après on les retrouve dans la rue sans avoir purgé leur peine.
Le climat de méfiance entre la population et la police nationale a obligé le ministre en charge de la sécurité publique à visiter quelques commissariats de la ville de N'Djamena. Mohamed Abali Salah a déploré que la plupart de ces commissariats sont gérés par des commissaires qui ne savent ni lire ni écrire.
Dans 3 jours, que tous les commissariats
commissaire de la ville de N'Djamena soient des gens lettrés, des gens qui savent lire. C'est bizarre, c'est très bizarre que d'avoir un commissaire qui est censé appliquer la loi qui ne sait pas lire.
Pour Mahamat Kader Mahamat, président de l'Association nationale d'aide aux détenus, la déclaration du ministre en charge de la sécurité publique est un aveu d'échec.
Vraiment, c'est un acte déplorable venant d'un ministre en disant que dans des commissariats de la ville de N'Djamena même, c'est des illettrés qui gèrent ces commissariats. Il faudrait qu'il y ait une police de police, une structure qui relève des polices judiciaires qui doit être au-dessus des autres, en sillonnant les commissariats et d'autres centres de détention pour faire la situation.
Pour certains observateurs, la condamnation du commissaire premier adjoint du CSP7 et ses agents, ainsi que la promesse du ministre en charge de la sécurité publique de relever tous les commissaires analphabètes peuvent réinstaurer la confiance entre civils et policiers. Confiance mise à rude épreuve suite aux décès répétitifs de jeunes en détention préventive dans les commissariats des suites de torture. André Kodumadingar N'Djamena, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La 29e journée de l'enfant africain, commémorée ce dimanche à travers le continent, instituée par la défunte organisation de l'unité africaine, OUA, elle rappelle le souvenir des centaines d'enfants sud-africains massacrés à Soweto lors d'une marche pour leurs droits. Un reportage sur la situation des enfants au Gabon avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Une étude officielle menée ces 5 dernières années a révélé que 77% des enfants gabonais sont victimes de violences dans leur milieu familial, dans leur communauté ou encore à l'école. Edith Mavioga, psychologue.
Le fait que l'enfant ne communique pas avec l'un des parents, soit le père, soit la mère, ça peut pousser l'enfant à aller dans la rue. Il faut écouter l'enfant, il faut amener l'enfant à communiquer, à dire son problème.
Protéger ces êtres vulnérables est le combat quotidien de la maison de charité Tabitha. La présidente de cette ONG se remet d'un drame familial avec la perte de son enfant en 2016. Joanna Ngondi.
Il avait déserté la maison et il s'est entiché de personnes peu fiables. Il a terminé mort avec une balle dans la tête. Donc je ne voudrais pas que ces enfants, garçons, ces adolescents puissent connaître le même sort. Non à ceux qui soient délinquants, non à la prison, non aux drogues.
L'ONG Tabitha a beaucoup contribué à la réinsertion sociale de plusieurs enfants victimes de violences ou qui sont orphelins. Un témoignage avec Daniel Meza.
L'ONG m'a permis de un peu me relâcher. Comme là, je viens de parler en public, mais avant, je ne parlais pas en public. Et ils m'ont dit de bien étudier. Alors, je commence à me plonger dans mes cahiers. Et je pense que j'ai réussi mon examen.
Au Gabon, une des violences coutumières est le meurtre rituel d'enfants. Jean-Elvis Ebando, président de l'association de lutte contre les crimes rituels.
Chaque année, il n'y a pas moins d'une trentaine d'élèves, des jeunes, quand j'entends par jeunes, des jeunes de moins de 18 ans, des 0 à 18 ans, qui sont assassinés. Mais le mode opératoire change actuellement. Le système en place étouffe les médias d'en parler et fait tout pour couper le robinet, empêcher aux partenaires de développement, les gens de bonne moralité, de nous soutenir. Et ils pêchent par les moyens d'intimidation, de corruption, les parents qui sont tellement ancrés dans le combat que nous menons.
Pourtant, le gouvernement dit œuvrer à la protection du droit des enfants. Camille Mbengandong, directrice générale des affaires sociales au ministère des Affaires sociales.
Le code de l'enfant vient d'être réécrit et adopté par le Parlement. Donc le Gabon a refait son code et aujourd'hui les droits des enfants sont respectés plus qu'auparavant.
Depuis Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Josèle Morissin. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.